Bien, avant de laisser la place à notre visiteur, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé ces derniers jours. On a eu une mission, vous le savez, il y a une semaine de cela, et on a prié, et s'est passé des choses, et il est important de partager ce que Dieu a fait, bien évidemment, surtout qu'on va prier pour deux cas juste après, et ça va stimuler notre foi. Patrice est là. Tu veux bien venir, Patrice, nous donner des nouvelles à la fois de Daniel et puis de ton petit neveu, Nathan. En général, quand Patrice vient devant, il s'est passé des choses, hein, vous le savez.
Je ne veux rien, c'est Jésus. Alléluia, c'est merveilleux. Donc dimanche matin, j'étais avec Julie, donc la fille de Daniel, qui est guérie, hein, vous savez, là, elle est en maison de, non, à Trélazé, là, la maison de santé Saint-Claude. J'ai été la visiter hier, donc on verra après, mais. Donc, Julie était là et je sentais qu'il fallait qu'elle vienne à la position dimanche. C'était dimanche matin. Donc, souvent, c'est l'après-midi, hein, on dit. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de loi de dimanche matin, l'après-midi. Quand le Seigneur, il dit de venir à la position dimanche, on y va. Hein, donc, j'ai senti qu'il fallait qu'elle vienne, qu'on remercie le Seigneur pour sa mère et pour elle. Parce qu'elle veut changer de vie aussi, elle a été touchée, hein. Donc je me suis approché avec elle, donc on a prié pour elle. Et voilà, mon petit neveu, quand il m'a vu me lever, donc le Seigneur m'avait bien dit, lève-toi, va avec Julie, c'est le moment. Et le petit neveu qui était avec sa maman, donc ils sont venus à l'imposition des mains pour le bébé qui a 14 mois, parce qu'il a un testicule qui n'est pas descendu, ça y est maintenant. Donc c'est merveilleux parce que il n'y aura pas besoin d'opération. Bref, et le neveu, il est venu tout seul. Il est venu là, il a suivi, puis à un moment, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Moi, tu sais, le problème de ma vue, je voudrais être guéri, moi. Moi, le Seigneur, il peut me guérir, Jésus peut me guérir. Bien sûr qu'il dit ça, maman. Pourtant, elle n'était pas complètement croyante. Hein. Et donc, il est venu à l'imposition des mains. Et ça s'est passé, donc, le midi. Alors, il avait, disons que c'était une forte... Donc, normalement, il aurait dû avoir des lunettes très, très épaisses. Maintenant, avec le bonheur 10, c'est plus fin. Hein. C'était déjà plus, mais il avait un strabisme. Il fallait qu'il porte des lunettes... porté à vie, hein. Donc à l'école, donc c'était, il y avait une doublure de lunettes, si jamais il cassait, qu'il mettait les lunettes, parce qu'il fallait qu'il ait les lunettes tout le temps. Et donc le soir, il a dit à sa maman, il était à table, et puis il dit, ça me brûle, j'ai les yeux qui me, je pleure, je vois plus rien. Il dit, tu crois? Il dit, c'est Jésus qui t'a guéri, qui a fait comme ça, en rigolant un peu sa maman, toi. Ouais, parce que il croyait pas trop. Hein. Il dit, maman, j'ai mal aux yeux. Et puis, donc il s'est su, il enlève ses lunettes. « Oh maman, je suis guéri, Jésus m'a guéri, il est présent, il est en moi, il m'a guéri qu'il était là. » Alors, sa maman, elle a dit, écoute, on va lire un livre, mais je ne vais pas lire les livres que tu connais par cœur. Elle a été chercher un livre sur l'horticulture. Et il a commencé à lire. « Oh, faut que je téléphone à tonton. » Je reçois un coup de téléphone. « Hey, tonton, je vais lire, Jésus m'a guéri, il est présent, il est en moi. » C'est alléluia, oui, alléluia, il est guéri complètement. Et c'est pas fini, parce que Jésus, quand il fait les choses, il les fait complètement. Il confondait les couleurs. Il était daltonien, et Jésus l'a guéri. Il confond plus les couleurs. Il connaît le gris clair, le bleu, et il annonçait ça dans son école. Il arrivait avec sa maman. Il a évangélisé il a évangélisé. Il a dit, Jésus m'a guéri. Alors la maîtresse s'est dit, c'est sûr. Alors bon. Sa maman, elle dit, je suis de famille catholique, mais mon mari, il est évangéliste. Et puis, elle était en position des mains, tout ça. Alors, dans le coup, elle a dit, c'est formidable. Donc, ils en ont parlé à tous les professeurs, les élèves. C'est sûr que les élèves, ils se sont un peu moqués de lui, se sortiraient, mais après tout, je vais pas aller dans le détail, mais ils sont revenus à lui, ils l'ont serré la main. Même son meilleur ennemi, c'est lui qui est venu en premier, il dit, félicitations, c'est merveilleux, t'es guéri, c'est merveilleux quand même, c'est vraiment formidable, hein. Alléluia. Alléluia. Et si je ne m'étais pas levé, si j'avais pas obéi à Jésus de se lever dimanche matin, ça n'existait pas. Il n'y avait pas la guérison. Donc quand Jésus dit de vous lever, d'y aller, le Seigneur ne l'enferme pas dans un cocon. Hein. Ce soit le dimanche matin, le dimanche après-midi, n'importe, on y va, on obéit à Jésus. Pour Daniel, donc j'ai été la voir, donc guérie complètement. Elle vient, on l'a vu, je dis, mais on dirait pas qu'elle a été opérée. Parce qu'elle est vraiment bien. Et donc, on a pu parler aussi son fils qui est arrivé. Donc, sa fille est touchée et on a parlé à son fils. Le Seigneur a permis qu'on y parle. Et il fréquente une femme marocaine et musulmane. Et elle a été très attentive, très attentive. Hein, elle m'a posé plein de questions. Et vraiment, hier après-midi, ça a été merveilleux, merveilleux. Alors, on peut remercier le Seigneur parce qu'avec Jésus, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit.
Ah, merci. Merci. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Daniel, c'est une amie qui est venue il y a quelque temps. Elle était atteinte d'un cancer généralisé. Et donc, les médecins ne pouvaient plus rien faire pour elle. Et puis, voilà, Dieu l'a sortie de ce cancer et elle est en bonne voie de guérison. Maintenant, on attend avec impatience de la retrouver ici parmi nous. Il y a eu un autre témoignage qui a été partagé dimanche après-midi. Lisa, bah oui, on va parler de toi encore. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas là, donc je voudrais vous faire partager ce témoignage de ce que Dieu a fait dans le corps de Lisa. Et je vais demander à Marilène de venir pour nous dire. Tu te lèveras à la fin pour que tout le monde te voie, Lisa.
Oui, bonjour. Je vais donc vous relater ce qu'on a pu partager dimanche après-midi. Donc, comme je disais, Lisa, enfant, elle tombait toujours. Elle avait toujours les genoux écorchés, elle était toujours en train de tomber, mais bon, on s'en est pas inquiété. Et à l'âge de 10 ans, elle a commencé à avoir des crises très douloureuses aux genoux, mais vraiment très douloureuses. Il n'y avait aucun traitement qui pouvait lui faire effet, aucun médicament n'arrivait à la soulager, et c'était des crises qui duraient pendant des semaines entières. Ça lui provoquait un épanchement de synovie. En fait, le liquide qu'on a dans le genou, tous, la synovie, eh bien, la poche se perçait, ça se répandait, et par conséquent, elle avait les genoux qui gonflaient, elle n'arrivait plus à plier les jambes, à bouger les jambes, et en fait, elle n'arrivait plus à marcher. On était obligé de la soutenir pour qu'elle puisse monter les escaliers pour accéder à sa chambre, et c'était des douleurs insupportables, matin, elle était même réveillée par la douleur, c'était vraiment insupportable. Et entre ces crises qui étaient vraiment très fréquentes, eh bien, elle a commencé à ne plus pouvoir marcher normalement. Elle ne pouvait plus faire le moindre trajet sans souffrir. On habite même pas 10 minutes à pied du collège où elle était. Et en fait, elle pouvait plus du tout faire ce déplacement toute seule parce qu'elle souffrait vraiment terriblement. À 11 ans, elle a consulté pour la première fois le spécialiste, le rhumatologue, donc elle a passé des examens, radio, échographie, analyse de sang, et il s'est avéré qu'elle avait une malformation de naissance. Et le spécialiste lui a dit textuellement, Lisa, il n'y a aucune solution pour toi. Il va falloir que tu apprennes à vivre et à gérer ce problème toute ta vie, parce que médicalement, il n'y a pas de traitement, il n'y a aucune opération qui est envisageable, il va falloir que tu supportes tout ça. Et lui a dit aussi, le sport, c'est complètement terminé. Alors Lisa faisait de la natation en club, elle lui a dit la natation c'est terminé, toute activité sportive c'est exclu parce que va falloir que tu vives avec ça. Elle dit la seule solution, enfin c'est pas une solution, mais on va essayer d'améliorer ton quotidien, c'est que tu vas porter une genouillère à chaque genou en permanence. Et puis elle a prescrit des séances de kiné. Alors elle a commencé à porter ses... Ah oui, j'ai oublié de préciser. Quand on est sorti de Lisa, elle s'est effondrée en larmes devant ce médecin. Elle pleurait quand on est sorti du cabinet. Et là, je lui ai dit, écoute Lisa, j'ai bien entendu ce qu'a dit le médecin, mais tu ne vas pas rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie. On va prier, Dieu est vivant et Dieu va te guérir. Alors elle a commencé à porter ses genouillères et là, ça a été de pire en pire. Parce que en fait, vous imaginez une grosse genouillère à chaque genou, ça voulait dire qu'elle pouvait plus du tout plier sa jambe de la journée. Au collège, pour monter les escaliers, pour aller de cours en cours, c'était impossible. Elle souffrait encore plus et le soir, elle était très fatiguée. Donc finalement, on a abandonné. Elle a dit je peux plus porter ça, donc elle a fini par ne plus porter ses genouillères. Et puis, en mai 2014, lors de la mission avec David. Son papa, Stéphane, vous connaissez maintenant l'histoire, a été guéri miraculeusement de son problème de surdité, de maladie génétique. Et Lisa, elle était là quand son papa était guéri. Et lors de la dernière réunion de la mission, le dimanche après-midi, alors que c'était le moment de l'imposition des mains pour les malades, que les personnes commençaient à s'approcher, Lisa l'a dit « Moi, j'y vais. J'y vais pour mes genoux ». Et là, elle avait vraiment la foi pour être guérie. Elle s'est approchée. Tout simplement, David a prié pour elle au nom de Jésus. Et dans les semaines et les mois qui ont suivi, ben, non seulement il s'est rien passé, mais ça s'est empiré. Elle avait de plus en plus mal. Et on lui a dit, bah, tu as fait un acte de foi, tu as mis toute ta confiance en Dieu, il faut persévérer, continuer à prier, et Dieu va te guérir. Et c'est ce qu'elle a fait, on a continué à prier, elle a prié tous les jours, on a prié avec elle, et croyant que Dieu allait la guérir. Et puis, elle a commencé à avoir constaté une amélioration au printemps dernier, et surtout cet été. Pendant nos vacances, on a beaucoup marché, mais vraiment, oui, vraiment beaucoup marché. Et elle a eu aucune douleur au genou. Quand elle a repris ses séances de kiné à la rentrée, le kiné lui a dit « Je ne comprends pas, tu n'as plus mal du tout ». Elle a repassé sa visite annuelle chez le spécialiste, là, il y a un peu plus d'un mois. Et alors que pendant cette séance, bah, évidemment, le médecin l'examine, genou, dos, cou, d'habitude ça lui fait très mal. Là, elle est sortie, elle a dit « J'ai eu aucune douleur ». Elle peut marcher normalement, faire les trajets pour aller au lycée. Elle a repris les cours de sport et Dieu l'a complètement guérie parce qu'elle n'a plus aucune douleur. Voilà.
Merci. Lève-toi qu'on te voit bien. Là. Voilà Lisa qui était guérie. Faites gaffe parce qu'elle peut courir maintenant. Elle peut vous rattraper. On est content, hein, vraiment pour elle. La vie est complètement différente. Hein. Mais vous voyez, ça a pris du temps aussi. Et pendant un premier temps, dans un premier temps, ça s'est aggravé même. Et il faut persévérer, c'est ce que David partageait dimanche dernier dans ces cas-là, parce que ça arrive bien évidemment. Et c'est là qu'il ne faut pas douter, il faut continuer dans la prière. C'était le cas pour Lisa et donc avec ses parents. Vous savez, on sait que l'incrédulité est contagieuse, malheureusement. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est la même chose avec la foi. C'est que la foi est aussi contagieuse. Et là, on peut dire heureusement. Et c'est ce qui s'est passé certainement au travers de la guérison du papa. Lisa s'est dit, voilà, si ça s'est passé pour lui, ça peut se passer pour moi. C'était des deux côtés, il n'y avait médicalement rien à faire. Et puis Dieu est intervenu. Donc on bénit Dieu pour cela et on se réjouit pour ce qu'il fait là dans les corps et dans les vies. On va porter deux cas ce matin. Il y a le cas d'un enfant, il s'appelle Nathan, encore. Nathan, il a 4 ans. Nathan, et la maman nous a appelé hier soir. Il est hospitalisé depuis 3 jours. Ça fait 11 jours qu'il est sous une très forte fièvre. Il a dépassé les 41. Il est très, très mal et il a été hospitalisé donc il y a 3 jours. Et les médecins ne peuvent pas mettre un nom sur l'infection, sur le problème qu'il a. Et il est vraiment très, très, très mal. Il ne peut plus bouger. Il est tellement pris par cette fièvre qu'il ne peut même plus lever le bras. Il est complètement inerte sur son lit. Donc on va prier pour Nathan ce matin. Il y en a un, Nathan, qui a été guéri la semaine dernière. Hein, et on peut demander la même chose cette semaine pour ce petit Nathan. Et puis on va prier aussi, il y a un ami qui est ici pour la première fois, sa femme ou sa compagne est atteinte d'un cancer. Je crois qu'elle s'appelle Sonia, c'est bien ça? Vous appelez comment? Denis. Et donc elle est dans un état critique, hein, je crois qu'on peut dire cela, hospitalisée en ce moment. D'accord. C'est un cancer, donc probablement à Paul Papin. Et le mari est là et on va, si vous voulez bien, prier pour ces deux cas maintenant. Et pour, en signe d'unité ensemble, je vous invite à vous lever. On va ensemble s'associer maintenant pour ces deux cas. Demandez à Dieu d'intervenir. Seigneur, nous unissons maintenant dans la prière. Selon ce que tu as dit, Seigneur, nous mettons en accord ensemble, Seigneur, devant toi et dans la foi, Seigneur. Te bénissons pour ce que tu as fait pour le petit Nathan il y a 8 jours de cela, Seigneur. Pour la guérison miraculeuse dans son corps, Seigneur. Pour la manière, Seigneur, dont tu l'as visité pour lui donner une vue, Seigneur, complète, Seigneur, parfaite, Seigneur. Et Seigneur, te bénissons pour ce que tu as fait pour Daniel aussi, Seigneur. Parce que tu l'as relevé, Seigneur, de ce cancer, Seigneur. Te bénissons pour ce que tu as fait pour Lisa aussi, Seigneur. Nous avons là bien des signes dans cette église de ta puissance à l'œuvre encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous avons encore besoin de toi ce matin, particulièrement pour le petit Nathan, Seigneur. Afin que tu le relèves dans cet instant, Seigneur. Et que tu le touches, Seigneur. Nous crions à toi maintenant pour lui. Nous associons avec la maman maintenant, Seigneur.
afin que tu le, Seigneur, le relèves totalement, Seigneur. Et nous voulons que tu fasses, Seigneur, pour Nathan, ce que tu as fait pour la belle-mère de Pierre dans les évangiles, Seigneur, qui était atteinte de cette forte fièvre, Seigneur. Tu as chassé la fièvre, Seigneur, pour qu'elle soit rétablie. Nous chassons la fièvre, Seigneur, dans le corps de Nathan, Seigneur, pour qu'il soit rétabli totalement et qu'il sorte de l'hôpital dans les plus brefs délais. Nous crions à toi aussi, Seigneur, pour Sonia, Seigneur. Tu vois son cas, la maladie dont elle est atteinte, Seigneur. Et nous unissons maintenant, Seigneur, pour la guérison, pour Sonia, comme tu l'as fait, Seigneur, pour Mirella, comme tu l'as fait pour Daniel, Seigneur. Alors guéris cet ami maintenant, Seigneur. Pose ta main. Tu entends la prière de l'Église. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen. Et amen.
Amen. Je vous invite à vous asseoir. Que Dieu soit béni. On s'attend à de bonnes choses encore. Je voudrais laisser la place à notre visiteur, notre invité ce matin, Yanis Gauthier. Il était déjà là. Il a déjà eu une journée assez chargée hier, puisque ça a commencé avec un entretien avec une radio locale. Ensuite, un temps de formation ici dans cette église. L'après-midi, il est allé rencontrer des détenus à la maison d'arrêt d'Angers pour partager son expérience. Et puis hier soir, il y avait une réunion spéciale qui n'était pas dans nos locaux, qui était dans une salle qu'on a louée pour cela et pour partager aussi son expérience avec des jeunes. Et je vous remercie tous ceux qui sont venus de cette église. Vous avez été nombreux à participer. Je vous remercie de votre soutien. Et puis on est heureux de recevoir ici ce dimanche matin Yanis Gauthier, qui est pasteur des Assemblées de Dieu, qui aussi a un ministère d'évangéliste et qui va de ville en ville, là, de lieu en lieu, pour partager l'Évangile à partir de ce que lui a vécu dans sa vie, un grand changement extraordinaire, changement de vie, changement de cœur. Et ce que Dieu a fait pour lui, eh bien, il peut le faire pour d'autres. Et nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous maintenant. Je lui laisse toute la place. Saluons-le et accueillons-le maintenant. Merci.
Voilà, je suis heureux d'être avec vous. Je vais m'installer. Comment on lève ça? J'ai passé une superbe journée hier et notamment, il y a un privilège que Dieu me donne, c'est de pouvoir aller en prison. Alors, depuis que je suis sorti de prison, en fait, je n'ai jamais été autant en prison. Et ce qui m'a touché profondément, ça descend. D'accord. Ce qui m'a touché profondément, premièrement, ça a été de voir toutes ces personnes qui ont répondu à l'appel lancé, celui de confier sa vie au Seigneur. Et il y a un homme qui a dit ceci. Mon père est pasteur et j'ai l'habitude, depuis des années, je vais à l'église et cependant j'ai toujours choisi ma voie. Et je ne sais pas pourquoi, depuis quelques jours déjà, j'avais l'impression que ce jour-là était prévu de Dieu. C'était comme si Dieu voulait me parler. J'étais convaincu, je n'ai même pas dormi, j'étais convaincu que Dieu avait un message pour moi. Et ce matin, je me suis préparé et mon idée, c'était j'ai un parloir avec Dieu. J'ai un parloir avec Dieu. Dieu va me parler. Et il a donné sa vie au Seigneur et il a dit je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même. Je crois que ce matin, Dieu va parler. Et nous l'avons entendu, c'est merveilleux de voir que Dieu agit encore aujourd'hui, que le temps des miracles n'est pas fini. Amen. Amen. Peut-être que vous pouvez vous tourner vers votre voisin et lui dire « Tu es au bon endroit ce matin. Tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera jamais ôtée. » Ce matin, je vais vous parler du pardon. Cet après-midi, on sera vraiment dans une réunion d'évangélisation. Je vous encourage à inviter des personnes qui ont aussi besoin d'expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu. Donc ce matin, on va s'arrêter là-dessus. Et il y a quelques... Oui, c'est vrai. Je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Bien que le pasteur en a pas mal dit, et puis hier aussi pour ceux qui étaient là, mais je vais me représenter. Je m'appelle Yanis Gauthier. À la maison, on m'appelle Abraham, père d'une multitude, parce que j'ai 6 enfants. Donc je suis... j'aime pas le mot rattaché depuis que je suis sorti de prison. Je déteste ce mot. Je fais partie des églises sources de vie, Assemblée de Dieu, à Sarcelles. Et oui, le ministère que Dieu m'a confié est un ministère axé sur l'itinérance. Je vais dans les quartiers sensibles, dans les prisons, et puis dans les églises pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà. Un journaliste m'a posé une question un jour. Il me demandait quelle était votre relation avec Dieu lorsque vous étiez en prison. Et oui, j'ai fait de la prison. Je lui ai dit, c'est simple, je n'avais aucune relation avec Dieu. Il me dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, vous savez, quand j'étais petit, je comptais mes péchés. Et à chaque fois que je commettais une erreur, je faisais quelque chose de bien pour que Dieu me pardonne, efface mon erreur. Mais à un moment donné, j'en avais tellement fait que je ne pouvais plus les comptabiliser, mes transgressions. Alors, l'idée qui était la mienne, c'est que j'étais impardonnable. Et mon épouse, qui a été l'intermédiaire, l'outil, l'instrument que Dieu a utilisé pour me partager le merveilleux message de l'Évangile, a été une femme audacieuse et persévérante. Faut dire que quand elle vient et qu'elle me parle de Dieu, le contexte, il est simple. Je suis incarcéré pour plusieurs vols à main armée, j'encours une peine de 20 ans, et toute ma vie se résume à un seul mot, souffrance. À cet instant, comme je le disais hier, je pensais que j'avais été placé sur la terre pour vivre l'enfer. Et je ne pouvais pas imaginer que Dieu puisse s'intéresser à quelqu'un comme moi. Pourquoi ? Parce que si Dieu m'aime, pourquoi mes parents m'ont abandonné ? Si Dieu m'aime, pourquoi ? Toute ma vie, j'ai galéré, j'ai souffert, j'ai vu mes amis mourir. Si Dieu m'aime, pourquoi, lorsque j'étais enfant, j'étais obligé de fouiller dans les poubelles pour manger? Si Dieu m'aime, pourquoi ma belle-mère a passé son temps à me détruire psychologiquement, physiquement? Si Dieu m'aime, pourquoi il a permis tout ça? Pourtant, un soir, dans ma cellule, va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors que j'étais là en train de réfléchir, de gamberger, comme on dit, Dieu va venir à ma rencontre et il va me poser une question. Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? J'ai tellement été convaincu que c'est lui qui me parlait en ces instants que le lendemain, j'entamais une démarche. Je demandais à mon épouse, est-ce que Dieu est capable de pardonner un pécheur de mon envergure? Est-ce que Dieu est capable de pardonner quelqu'un comme moi? M'a répondu, bien sûr. Pourtant, difficile, compliqué à comprendre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est en prison, en fait, du matin au soir, du soir au matin, on vous rappelle que vous avez transgressé les lois de la justice. On vous rappelle que vous avez fait du mal à la société. Les murs même vous parlent de vos erreurs, de vos fautes. Alors dans ma cellule, alors que je voyais tout ça, que je pensais à mon état dur, à concevoir que Dieu puisse pardonner, oublier, rien retenir de mes transgressions. En fait, l'ennemi se faisait un plaisir de me rappeler constamment mes erreurs, de me les remettre sous les yeux, en me disant, tu crois que Dieu peut pardonner quelqu'un comme toi? Tu crois que Dieu peut effacer ta dette? Tu es coupable. Regarde où tu es. Tes parents n'ont pas voulu de toi. La société n'a pas voulu de toi. Tu es enfermé avec des gens qui te ressemblent ici. Tu crois qu'un simple pas vers Dieu va effacer ta dette? Tu es coupable et tu vas payer. J'ai croisé la route d'un aumônier à qui j'ai demandé une Bible. Et cette Bible, elle va rester sur la table dans ma cellule pendant des jours. Je vais la regarder. Je vais l'observer sans la toucher. J'ai envie d'ouvrir les Écritures, mais je n'y arrive pas. Je ne le peux pas parce que je me sens sale. Je me sens indigne, impropre, tellement mauvais, tellement coupable que j'ai peur de mettre ma main sur la parole de Dieu, de peur qu'il me châtie. Pourtant, Dieu va me donner la force d'ouvrir les Écritures et je vais tomber sur un verset qui va radicalement changer ma vie. Il se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16, où il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour sauver ce qu'il aimait le plus. Le sacrifice de Jésus-Christ est à la hauteur, à la grandeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et c'est bien dans l'un des endroits les plus sales du monde, dans l'un des endroits où l'ennemi détruit et brise des vies. C'est bien dans cet endroit insalubre que pour la première fois de ma vie, j'ai parlé à Dieu. C'est là, dans cet endroit, que pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à délecter les Écritures. C'est dans cet endroit sale que j'ai expérimenté la grâce de Dieu dans ma vie. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Dieu est un Dieu de pardon. Et ce matin, au travers de deux exemples, de deux points, je vais vous amener à réaliser que le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Dieu n'est pas rancunier. Dieu efface nos transgressions comme un nuage et nos péchés comme une nuée, nous dit le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 22. Dieu est un Dieu de pardon et, vous savez, lorsque j'étais enfant, à l'âge de 4 ans, j'ai reçu une casserole d'eau chaude sur la poitrine de la part de mon grand frère, un accident. Mais ma belle-mère, qui avait tout sauf envie de m'amener à l'hôpital, m'a mis au lit en me mettant un gant sur le torse. Le lendemain, ce gant était accroché. Il fallait m'amener à l'hôpital et pendant des semaines, des mois, les médecins ont gratté mon torse. Résultat, j'ai une belle balafre. Vous savez, les enfants oublient vite. On oublie vite quand on est enfant. Alors, j'ai oublié cette blessure et jusqu'au jour où la maîtresse nous a informé que bientôt nous allons aller à la piscine. Et là, cette blessure est devenue rétroactive. Elle a repris vie en moi. J'ai réalisé que tout le monde allait voir mon torse. Et je ne le voulais pas. Alors, je me suis défait de toute activité qui aurait pu m'amener à montrer mon torse. Et puis, j'ai commencé à en vouloir à ma belle-mère. En réalité, à chaque fois que je voyais mon torse, je la punissais dans mes pensées. Il a fallu que Dieu pose sa main pour me guérir de ce traumatisme. Je vous dis cela parce qu'il y a des choses dans la vie, il y a des blessures qu'on nous a infligées qui nous font tellement mal, tellement souffrir, qu'on n'en parle même pas. On reste avec, on essaye de vivre avec. Et le diable se fait un plaisir de mettre sa main, son doigt là où ça fait mal. Et à chaque fois qu'il pose sa main sur cette blessure, elle reprend vie. Le pardon est un acte qui permet à Dieu de refermer nos blessures les plus profondes, les plus secrètes. Le pardon est un acte qui libère. Le pardon est un acte par lequel Dieu va nous restaurer, nous remettre debout. Dieu dit dans sa parole, « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Comme prospère l'état de ton âme. Jésus-Christ nous a montré, dans le Notre Père, le réel sens du pardon. Dans Matthieu 6, verset 12, il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dans une autre traduction, il est dit « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » Un homme qui avait été lésé par un autre homme, qui le suppliait de lui pardonner son offense, va lui dire « Ok, je te pardonne, mais il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est oublier. » Et il rentre dans sa chambre, et il prie, il s'adresse à Dieu, et il dit « Père, pardonne-moi comme j'ai pardonné cet homme. » On pardonne des lèvres et on garde l'offense dans le cœur. Ça, ce n'est pas le pardon. En réalité, le pardon est un acte de grâce par lequel nous nous identifions à Christ. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des infâmes pécheurs, Christ est mort pour nous. En réalité, dans la vie, nous n'avons que deux choix, deux options. Soit de réagir par la grâce, ou il est dit dans Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Soit de réagir en fonction de la loi. Ça, c'était moi hier. Lévitique 24, verset 20, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Deux choix, deux options. Mon premier point, c'est le manque de pardon nous lie psychologiquement à la personne que nous n'avons pas pardonnée. Pierre s'approche de Jésus dans Matthieu 18, verset 21. Il lui dit, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois ?»« Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Cela veut dire, ne te lâche pas de pardonner. Parce que lorsque tu retiens l'offense, tu retiens la personne. Lorsque tu retiens l'offense, tu retiens psychologiquement la personne. Il est donc important de comprendre que même si la volonté de Dieu parfois nous semble difficile à accomplir, difficile à mettre en pratique, Dieu souhaite que nous soyons heureux sur la terre. Dieu ne veut pas que nous portions des fardeaux qui vont nous briser, des joues qui vont nous détruire intérieurement. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Quand tu ne pardonnes pas, tu es lié psychologiquement à la personne qui t'a offensé. Il n'est pas question d'avoir tort ou raison, parce que beaucoup de personnes ont subi des injustices. Parfois, cela même dans leur enfance. Beaucoup de personnes ont été traumatisées par des personnes. Et quand Dieu nous demande de pardonner ces personnes, cela veut dire qu'il veut que nous soyons libérés, déchargés de ces fardeaux pesants qui sont liés, qui sont les conséquences du traumatisme qu'on nous a infligé. J'aimerais vous dire que le pardon est possible avec Dieu. En réalité, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne la force de l'accomplir. Il nous donne la force de l'accomplir. Le pardon est une décision, c'est un choix. Et c'est le meilleur des choix. C'est le meilleur des choix. Vous allez retrouver une bonne partie de ma vie dans ce livre témoignage. À la sortie, nous avons un stand de librairie. Il y a également un DVD qui accompagne ce livre. Et dans ce DVD, il y a un court-métrage qui relate la vie de mon frère qui a une vie malheureuse, puisqu'il s'est fait assassiner. Et dans un restaurant, il a eu une dispute avec une bande de jeunes qui ont décidé de mettre fin à ses jours en lui tirant 3 balles dans le corps, dont une en pleine tête. Après quoi, ils l'ont lynché, ils lui ont cassé des bouteilles sur la tête, et ils lui ont arraché ses vêtements, ses chaînes. Bref, ils lui ont fait la misère. Et quand la police m'appelle, on me demande d'aller reconnaître son corps à l'Institut médico-légal, m'ont placé derrière une vitre. Et quand je vois mon frère là derrière cette vitre, je suis en colère. On a tué mon frère, on n'avait que 2 années d'écart. Et quand je vois son corps sans vie, intérieurement, je suis saisi d'un terrible sentiment de vengeance. Mais Dieu va me garder et puis la police va me présenter des portraits robots. Et bien que ces personnes vont se faire arrêter, du moins Il en manquait un parmi eux. Ces portraits robots ont pris vie en moi. En fait, ces personnes, même si elles étaient en prison, eh bien, elles étaient bien présentes dans ma pensée. La réalité, c'est que je pouvais être au soleil, à la réunion, au soleil, en train de manger des roucailles saucisses, et dès que je pensais à eux, je les punissais encore et encore. Je voyais rouge. Dès qu'on me parlait de, dès qu'on abordait cette conversation, les mots qui sortaient de ma bouche étaient loin d'honorer, de glorifier Dieu. En fait, ils étaient révélateurs d'une souffrance intérieure, d'un manque de pardon. Le plus dur, ça va être au tribunal, le jour du jugement. L'un, celui qui n'avait pas été arrêté, est décédé entre-temps. Et tous vont dire, mais nous, on n'a rien fait. C'est celui qui est mort qui a tiré. Et je ne sais pas pourquoi la justice va écouter. Résultat, ils vont être condamnés à 3 ans de prison. 3 ans de prison. À l'énoncé du verdict, les familles se lèvent. Elles applaudissent. Dans le box des accusés, ça s'embrasse, ça s'enlace. Pourquoi ? Parce qu'ils vont retrouver la liberté. Moi, je suis là avec ma belle-mère qui pleure, qui est dévastée. Et je dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Ils ont tué une personne. Et eux, ils vont retrouver la liberté. Quelle injustice ! Pour moi, ils étaient impardonnables. Impardonnables. En fait, j'avais envie de faire ma propre justice. Œil pour œil, dent pour dent. Ils ont fait du mal, il faut que je leur fasse du mal. Dans cet état d'esprit, en fait, je réfutais tout conseil. Je fermais mes oreilles tellement j'étais saisi, enfermé dans la haine et dans la colère. Je n'avais pas envie de pardonner. Ils étaient impardonnables. Vous savez, Dieu a ses temps, a ses moments pour venir parler au cœur de ses enfants. En réalité, Dieu voit ce qui se passe dans notre cœur. Il connaît l'état de notre cœur. Il ne veut pas de faille. Il ne veut pas de porte ouverte à l'ennemi. Jésus-Christ va dire, le diable vient, mais il n'y a rien en moi à lui. Aucune emprise. Rien qui lui appartient. Est-ce que nous pouvons dire les mêmes choses ce matin ? Dans mon cœur, il n'y a rien, aucune haine, aucun manque de pardon, aucune rancune, il n'y a rien. Mis à part tout ce qui vient de Dieu, c'est la parole de Dieu qui imprègne, qui imbibe mon cœur. En tout cas, cet instant, moi, je ne pouvais pas le dire. Pourtant, voici l'instant de Dieu où il vient parler à mon cœur pour me dire, mon enfant, quand je suis venu à toi, quand je me suis révélé à toi, qui tu étais ? Rien. Est-ce que tu aurais été capable de faire les mêmes choses ? Mais c'est vrai, Seigneur, j'étais un infâme pécheur, capable de tuer pour de l'argent, oui, je le reconnais. Où tu étais ? En prison, Seigneur, dans cet endroit sale, au milieu des rats et des cafards, c'est là que tu es venu vers moi. C'est là que tu es venu vers moi. Oui, Seigneur, je n'étais pas meilleur que ces personnes quand tu m'as pardonné. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, verset 14, « En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. » J'ai besoin d'être pardonné par Dieu parce que je ne suis pas parfait. L'Église n'est pas parfaite. Elle est constituée de gens imparfaits, sauvés par la grâce. Je ne suis pas parfait. Chaque jour, j'ai besoin du pardon de Dieu dans ma vie. Et je ne peux pas rester en porte-à-faux avec la volonté de Dieu. Je ne le peux pas. C'est un luxe que je ne peux pas me permettre. Il n'y a pas d'option possible. Il n'y a qu'une décision à prendre. Pardonner. Alors j'ai pardonné ces personnes. Bien sûr, j'ai pas couru après eux pour les embrasser, pour leur dire que je les aimais. Non, j'ai pardonné. J'ai pardonné parce que je voulais que Dieu me libère de ces personnes. Et dans ce cas de figure, il était impossible pour moi de faire une démarche vis-à-vis d'eux. Je voulais que Dieu me libère psychologiquement de ces personnes. Et c'est ce qu'il a fait. aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de comprendre que Dieu veut nous amener en haut, que Dieu veut réellement que nous puissions être libres. Il ne veut pas avoir d'emprise de la part de l'ennemi sur notre cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, en voyant ces foyers exploser, ces familles divisées, en voyant ces enfants à la dérive, ces jeunes qui se perdent, qui sont à la recherche de tout un tas de choses pour trouver la paix et le bonheur, qui ne trouvent jamais, nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de manifester le pardon de Dieu, l'amour de Dieu à nos enfants. Aujourd'hui, le mariage ne fait plus recette. Même les femmes, même le mariage chrétien, parfois, arrive au divorce. Des fois, on devient des collecteurs d'offenses. Quoi ? Tu me dis encore ces propos ? T'as encore la même attitude ? Attends, bouge pas. J'ai un petit dossier qui date de 1999. Tu m'as fait exactement la même chose. Tu penses que j'ai oublié ? C'est ça le pardon ? C'est ça le pardon ? Parfois, très souvent même, des parents chrétiens viennent me voir en souffrance parce que leurs enfants sont partis de la maison. Oui, leurs enfants ne sont pas des modèles, ils ne sont pas parfaits, ils font des erreurs comme tout le monde. Mais quand ils viennent à la maison, au lieu de trouver le pardon et l'amour, ils trouvent des jugements et des condamnations. Alors, ils repartent. Ils repartent. Et à qui cela profite ? On ne peut pas être ignorant. Ce que Dieu attend de son Église, c'est de manifester sa pleine volonté sur la terre. Même au sein de ce monde qui s'écroule, où tout va mal, où certains essayent de nous terroriser, nous devons comprendre que notre seule arme, c'est l'amour. C'est l'amour. La croix, là où l'agneau de Dieu a été crucifié, cet homme qui n'avait rien fait, cet homme qu'on a condamné, cet homme qui souffrait pour l'humanité, là, à la croix, Christ a pris les péchés. Il nous a donné sa justice. Il a pris la malédiction qui nous était destinée. Il nous a donné sa bénédiction. En fait, il est mort pour nous donner la vie. Oui, à la croix, on parle d'amour, on parle de pardon, on parle de réconciliation, on parle de grâce. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Deuxième point, le manque de pardon engendre de l'amertume. Je vous le dis tout de suite, l'amertume, c'est une vraie gangrène, un cancer spirituel, abattement, affliction, chagrin, dépression, humeur noire, idées noires, haine, colère, jalousie, agressivité, rancune. Parfois même les gens qui sont dans l'amertume développent des ulcères, deviennent insomniaques. Voilà pourquoi dans Hébreux 12, verset 15, il est dit « Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume est un cancer spirituel qui détruit une personne. Il faut veiller sur ce qui rentre dans notre cœur. Ma belle-mère n'a plus jamais été la même après que son fils soit décédé, son fils chéri, je dois dire. Ça n'a plus jamais été la même. Elle a été enfermée dans la colère. En fait, elle a été rongée par l'amertume. Voyant son état, nous l'avons invitée à l'église parce qu'elle n'a pas eu une vie facile. C'était quelqu'un qui, en fait, a retrouvé sa mère pendue dans le salon. Et pendant son enfance, elle était abusée par son père, placée dans un foyer. Cette femme ne connaît pas le mot famille. Cette femme a été la première personne à mettre une cigarette dans la bouche de son enfant, qui est devenu après polytoxicomane. Mais c'était pas de l'amour, ça. Elle ne sait pas c'est quoi d'élever un enfant. Et quand elle a perdu son fils, je réalise qu'elle a besoin d'expérimenter l'amour de Dieu. Je réalise qu'elle a besoin de comprendre que Dieu est capable de pardonner ses erreurs. Alors, on l'invite à l'église. Elle entend le message de l'évangile, mais rien n'a fait. Elle est tellement rongée par la haine, par la colère. Elle a tellement envie de punir ces personnes. les assassins de son fils qu'elle repart en tournant le dos à Dieu. Elle tourne le dos à Dieu. Un jour, elle est chez elle. Elle est foudroyée par une crise cardiaque. J'arrive dans l'appartement. Je la vois. Et je suis triste. Triste parce qu'elle a refusé de répondre à l'appel de Dieu. Quelques jours plus tard, je dois vider l'appartement. Et je vais dans sa chambre, j'ouvre l'armoire. Et là, je fais une découverte des plus macabres. Sur son armoire, elle avait placardé les photos des assassins de son fils. Elle avait placardé les photos de son fils à l'Institut médico-légal pendant qu'on lui faisait une autopsie. Je me dis, mais c'est pas croyable. C'est pas pensable. À chaque fois qu'elle prenait ses affaires pour aller travailler, pour s'habiller, elle voyait ces personnes. Elle voyait son fils et ça nourrissait encore et encore de la haine dans son cœur. Voilà pourquoi elle était réfractaire à toute idée de pardon. À chaque fois qu'elle voyait son fils mort, elle punissait encore et encore ses assassins. Je vais à la mairie pour faire les papiers afin de la mettre en terre. La dame qui me reçoit va me dire « C'est pas la peine de faire creuser un autre trou le jour où votre mère est venue pour son fils, elle a réservé deux places. » Jacques 3, verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui le montre par ses œuvres, par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle reste charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Quel que soit le fardeau que tu portes, quelle que soit ta blessure, sache que Dieu peut la guérir. Qu'importe ce qu'on t'a fait subir, aujourd'hui peut-être que tu entends la voix de Dieu qui te dit, mon enfant, il est l'heure pour toi, il est temps pour toi de prendre une décision, celle de pardonner. Celle de pardonner. Celle de pardonner. Le pardon est un acte qui libère. Et je conclurai mon message en disant, le pardon est un acte par lequel Dieu passe pour réconcilier des familles brisées et détruites. Oui. Le pardon est un pont que Dieu utilise pour renouer des liens dans les familles. Après avoir donné ma vie au Seigneur, il fallait que Dieu me nettoie. Alors, ce n'était pas une petite douche, hein, c'était au Karcher, parce qu'il y avait tellement de travail à faire. Tellement de travail. Mais Dieu est un gentleman. Il ne va pas enlever les choses qui sont trop pesantes instantanément. Il va y aller progressivement. Il ne nous ampute pas de tout ce qui est mauvais. Doucement, il travaille doucement. Il façonne. Il taille, il sculpte. Ouais, ça, c'est le travail de Dieu. Avec l'amour, avec la paix, avec la douceur. Voilà, il polit. Et enfin, il nous montre encore des choses cachées. Qui sont là. Les choses secrètes, les blessures profondes. Et dans mon cas, c'était mes parents. Dieu m'a dit, pardonne tes parents. Alors, vous savez, mon père ne m'a pas élevé. J'ai jamais fait une bonne partie de football avec mon père. Je ne connais pas tout ça, mais je ne sais pas pourquoi. Mon père, c'était comme un héros, bien qu'il ne vivait pas avec moi. Ça n'a pas été difficile de prendre mon téléphone, d'appeler mon père pour lui dire « je pardonnais ». Mais par contre, ma mère, en fait, pour moi, elle était impardonnable. Vous savez, il y a une mère qui témoignait dernièrement en disant « Mon fils a été assassiné, une bande de jeunes lui sont tombés dessus et ils l'ont matraqué. Ils ont même lâché les chiens sur mon enfant alors qu'il était à terre et les chiens n'ont pas mangé, n'ont pas mordu mon enfant. » Et elle dit ceci, « Parfois, les animaux ont un meilleur comportement que les humains. » Et quand Dieu me dit de pardonner ma mère, je dis, c'est pas possible. Cette femme, elle m'a pris, après m'avoir donné naissance, elle m'a déposé aux services sociaux. Pendant qu'elle était au chaud dans son lit en hiver, moi, j'étais dans la cave en train de dormir sur un bout de carton. Pendant qu'elle mangeait des poulets rôtis, moi, je faisais les fins de marché, les poubelles. Je volais dans les supermarchés pour colmater mon estomac. Pendant que je souffrais, pendant qu'on me frappait, pendant qu'on m'insultait, pendant que j'étais en prison, pendant que j'étais torturé par la vie, elle était en vacances. Et tu me demandes de la pardonner ? C'est pas possible. C'est juste pas possible. Elle est impardonnable. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne la force de l'accomplir. Alors, en fait, Dieu ne m'a pas lâché. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu pardonnes. Parce que ta mère, elle a besoin d'être sauvée également. Ton père, il a besoin d'être sauvé également. Il faut que tu pardonnes. Parce que tes enfants, ils ont besoin de connaître leurs grands-parents. Et surtout, il faut que tu montres, que tu manifestes que j'ai changé ta vie. Il faut que tu sois un bon témoignage. Pardonne. Vis pleinement la vie que je t'offre. Pris mon téléphone. Maman, ouais, ça va? Je te pardonne. Viens. Le pardon est un pont par lequel Dieu réconcilie, ressoude les familles brisées. À cause de cet acte, pour la première fois et la seule fois de ma vie, ça n'arrivera plus, j'ai pu réunir mon père et ma mère ensemble. Je n'ai vu qu'une seule fois mes parents dans ma vie, ça a duré 2 heures. Une seule fois. Une seule fois. Et le dimanche, avant que mon père reparte pour la Côte d'Ivoire, je lui ai dit, « Papa, est-ce que tu voudrais m'accompagner à l'église ?» Il a accepté. Nous voici en famille à l'église. Je suis tellement fier qu'il puisse me voir louer le Seigneur, qu'il puisse me voir une Bible dans ma main. Je suis tellement fier que mes enfants soient avec leur tapis à l'église. On est là, on est en famille. C'est la première fois, c'est la seule fois que je vois mon père dans une église. Waouh! À la fin, le pasteur dit, il y a peut-être une personne ce matin qui veut voir Dieu pardonner ses fautes. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut s'approcher du Seigneur et lui confier sa vie. Personne ne bouge. Moi, je prie dans mon cœur, Dieu, touchez mon père. Parce que mon père, il a 70 ans. Sa vie se résume à un seul mot, débauche. Il est au bord d'un divorce. C'est un alcoolique, tabagique. Et je vois que mon père ne bouge pas. Alors, à un moment donné, je me tourne vers lui et je lui dis, papa, papa, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, papa, pour laisser Dieu pardonner tes fautes. Il n'est pas trop tard, papa, pour t'approcher de Dieu. Il n'est pas trop tard pour laisser Dieu écrire une nouvelle histoire dans ta vie. C'est pas trop tard, papa. Et là, mon père me regarde, il verse une larme et me dit, tu as raison, mon fils, tu as raison, il n'est pas trop tard. J'ai vu cet homme se lever, venir là-devant et confier sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit ta blessure, je te demande d'oublier celui qui te l'a infligé et de regarder maintenant à celui qui peut t'en guérir. Il n'est pas trop tard pour laisser Dieu poser sa main sur toi. il n'est pas trop tard pour laisser Dieu venir refermer cette blessure. Il n'est pas trop tard. Peut-être que ce matin, tu penses à quelqu'un en particulier. Tu penses à une personne de ta famille. Tu penses à un de tes enfants, à ton mari, à ton épouse. Peut-être que ce matin, tu penses à un collègue de travail ou un frère, sœur dans l'église. Peut-être que ce matin, il y a une blessure qui est là. Tu aimerais que le Seigneur vienne poser sa main et la referme. C'est une décision qui t'appartient. En tout cas, si tu veux répondre à son appel, je te demande simplement de te lever là devant et nous allons prier. Lève-toi à ta place. Nous allons demander à Dieu de poser sa main sur toi. Seigneur, merci pour ces personnes qui se lèvent. Merci, mon Dieu, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de bonté. Un Dieu de grâce. J'aimerais vous dire une chose avant de prier. Ne rentrez pas dans les plans du diable. Il vient pour détruire, diviser, égorger. Aujourd'hui, on n'est pas insensible à tout ce qui se passe dans notre société, à ces actes de terrorisme qui sont déroulés à Paris. Et les médias, en diffusant ces informations, alimentent encore et encore nos pensées. J'aimerais vous dire, qu'importe le pécheur, qu'il soit musulman, qu'il soit athée, qu'il soit hindouiste, Dieu l'aime. Et nous ne devons pas nourrir des mauvaises pensées. Notre seule arme à nous, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la tolérance, c'est la paix, c'est l'unité. Dieu ne souhaite pas que le pécheur se meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Et si dans ton cœur, tu as fait un amalgame, si dans ton cœur, c'est les musulmans qui sont là et tu punis inconsciemment, là encore, je t'en supplie, ne laisse pas le diable te contaminer avec ce type de pensée. Les musulmans sont des gens que Dieu veut sauver, veut les sauver. Mon frère est musulman et je sais que Dieu l'aime. Et je prie pour lui. Nous ne devons pas nous laisser enfermer dans la haine, dans la colère. Et si ce matin, tu te sens également concerné par ça, lève-toi à ta place, s'il te plaît. Lève-toi, va prier. Seigneur, merci pour ces personnes. Prennent position devant toi. Tu les connais, tu les vois, Seigneur. Tu sais quel est l'état de leur cœur, mon Dieu. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de pardon. Seigneur, tu es le Dieu qui réconcilie. Tu es le Dieu qui unit, tu es le Dieu qui rebâtit. Mon Dieu, mon roi, je te demande de poser ta main sur le cœur de tes enfants ce matin. Seigneur, viens à leur rencontre. Seigneur, ôte leur fardeau, décharge-les, Seigneur, de tout ce qui pèse sur eux, Seigneur, mon Dieu. Ô éternel, roi de gloire, toi le divin guérisseur, viens, guéris. Saint-Esprit, touche les cœurs. Viens refermer les blessures. Viens refermer les blessures. Viens ôter les douleurs. Saint-Esprit, merci pour la paix que tu poses dans les cœurs. Merci pour les promesses que tu libères dans les cœurs. Promesse de restauration, promesse d'unité dans les foyers, dans les familles. Et il y a un homme qui est dans la souffrance ici. Il y a un homme qui pleure. Il y a un homme qui aime son enfant, mais qui ne le dit jamais. Il y a des murs entre vous. Il y a des murs d'incompréhension. À cause de l'attitude de ton fils, tu lui as tourné le dos. À cause de ton ego, tu n'as pas su lui dire les mots qu'il fallait, les mots que j'ai mis sur ton cœur. Et aujourd'hui, tu pleures. Tu pleures parce que tu ne vois plus ton fils. Tu pleures parce qu'il t'a tourné le dos. Le Seigneur te dit abandonne. Laisse mon humilité descendre sur toi Fléchis le genou devant ma volonté. Et laisse mes paroles remplir ta bouche. Et alors tu verras, ton enfant reviendra promptement dans la maison. Alors tu verras, ton enfant fera la délice de ton cœur comme il le faisait auparavant. Je suis celui qui réconcilie. Je suis celui qui rebâtit, qui reconstruit les foyers brisés. Seigneur, merci. Merci pour ces foyers, merci pour ces familles, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que chaque personne qui a pris position ce matin, tu lui donnes la force, Seigneur, d'aller jusqu'au bout de cette décision. Merci pour l'amour, Seigneur, que tu mets dans notre cœur vis-à-vis, Seigneur, du pécheur qui se meurt, Seigneur. Que nous puissions entendre ta voix, Seigneur. Que nous puissions réaliser à quel point tu aimes, Seigneur, ceux qui se meurent. Et à quel point tu veux les sauver, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, dans les vies. Dans le nom de Jésus, je le proclame, les choses anciennes sont passées, elles ont disparu. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen.
Amen. Amen.